Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chaque invité depuis chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, peut-on trouver des responsables à la crise, tant au point de vue international que dans chaque pays touché par la Covid-19, l'idée de traduire en justice des responsables de la pandémie prend peu à peu sa place. En France, nous en sommes déjà à 61 demandes de saisine pour traduire des ministres devant la Cour de justice de la République, ainsi qu'à une quarantaine de plaintes contre X devant le parquet de Paris. Quant à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est tenue cette semaine à Genève, elle a été marquée par la volonté contrariée de certains États de lancer une enquête sur la responsabilité de la Chine dans la propagation de ce coronavirus, une position défendue entre autres par les États-Unis de Donald Trump. Comment démêler les chevaux des responsabilités dans cette affaire? Qui condamner? Tout en haut de l'échelle, les États eux-mêmes, les gouvernants ou encore à la base, les directrices par exemple ou directeurs de maisons de retraite? Faudrait-il préférer d'autres procédures pour rendre justice aux morts de cette épidémie? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Avishak Zafrani, elle est philosophe, spécialiste de Hans Jonas. Elle est chercheuse associée au laboratoire Philippe-Paul de l'université Paris-Descartes et de Sorbonne-Paris-Cité. Olivier Beau est également avec nous, il est professeur de droit public à Paris 2, auteur du « Sans contaminer », essai sur la criminalisation de la responsabilité des gouvernants, c'était en 1999, et également, plus récemment, en 2019, de la République injuriée aux presses universitaires de France. Et enfin, Philippe Sand est également avec nous, il est avocat, spécialisé dans la défense des droits de l'homme, professeur de droit à University College de Londres et auteur du très grand livre qui s'intitule « Retour à Lemberg ». Bonsoir à tous les trois et bonsoir à vous tout de suite. Philippe Sand, merci d'être avec nous. On vous a entendu l'autre jour dans la Grande Tarte parler littérature. Il est question là plutôt de votre spécialité d'avocat, de la question des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous dites justement de voir monter, comme c'est le cas ces temps-ci, de voir monter cette volonté d'incriminer par exemple la Chine dans la responsabilité de la propagation de ce virus dans le reste du monde, et c'est en particulier la position que tient assez fermement le pays qui est les États-Unis de Donald Trump?
Bonsoir Emmanuel, et ravi d'être de retour chez vous ce soir.
Merci.
Monde, un peu loin, mais présent. Dans le monde que j'occupe, le monde du droit international, des relations internationales, bien sûr, la question se pose, qui est responsable pour tout ça? Il y a une question préalable, c'est de connaître les faits. Parce qu'on sait vraiment pas très bien comment ça s'est passé, où ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et je pense que pour moi, au moins au niveau personnel, le plus important pour le moment, on est complètement intégré dans cette histoire, on n'est pas encore sorti, c'est de tenter de trouver une sorte de coopération internationale et de commencer maintenant de parler d'une responsabilité de tel ou tel État. Ça risque vraiment de dégrader la possibilité. Mais cela dit, à un certain jour, il y aura un compte rendu, il y aura le besoin de se poser la question comment ça s'est passé, et au moins pour éviter que ça revienne. Il faut commencer avec les faits. Et on ne sait pas vraiment très bien ce qui s'est passé. Il y a des histoires différentes. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est la bouffe chinoise? Est-ce qu'il y a un laboratoire à Wuhan ou quelque chose? C'est peut-être
le laboratoire
évadé.
P4, oui.
Est-ce que les Chinois ont donné des informations à l'OMS ou à d'autres pays? Est-ce que l'OMS a bien géré la matière en janvier? Alors, pour moi, l'important, c'est de mettre l'accent pour commencer sur ces questions.
C'est pour cela que, d'ailleurs, à l'Assemblée générale de l'OMS cette semaine, donc à Genève, Pékin a refusé une enquête centrée sur la Chine, mais qu'il y aura tout de même, et c'est d'autres pays qui l'ont souhaité, donc une évaluation de la réponse sanitaire internationale. Mais ça ne dira rien du tout début de cette crise, Philippe Sands.
Ça laisse ouvert cette possibilité. Les Chinois, ce qu'ils voulaient pas, c'est qu'on mette l'accent absolument sur eux. Et je pense qu'ils avaient d'accord pour ça, parce qu'en fait, il y a plein d'histoires à gérer au niveau international et au niveau interne. Mais la résolution que j'ai lue attentivement laisse ouvert la possibilité d'une groupe indépendante de maîtriser la totalité de l'affaire. C'est un grand travail, mais ils ont absolument le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre, novembre, décembre, absolument. Alors, en Chine.
On va faire l'aller-retour entre la France et les pays européens et cette responsabilité possible de la Chine tout au long de cette émission. Olivier Beau, bonsoir. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez professeur de droit public et donc spécialiste de ces questions. Si on regarde à la fois au point de vue international, comme vient de le faire Philippe Sanz, mais également dans un pays comme le nôtre, vous qui avez travaillé par exemple sur la responsabilité dans le cadre d'une autre affaire de santé, l'affaire du sang contaminé, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez par exemple que toutes ces plaintes qui ont été déposées à la fois devant la Cour de la République et puis également devant le parquet de Paris, des plaintes contre X, sont des plaintes qui sont nécessaires pour mettre à jour justement, disons, le fil des événements et savoir s'il y a une responsabilité quelque part?
Non, ils ne me semblent pas nécessaires. Il me semble que c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre sur le sang contaminé. Et l'affaire, ici, l'épidémie ne fait que renforcer ma conviction. C'est que ceux qui doivent d'abord éclairer cette affaire, ce sont les hommes politiques eux-mêmes. C'est-à-dire, la responsabilité politique veut que les gouvernants soient responsables devant le Parlement, ce qui est le cas en France. Donc le Sénat a décidé de lancer une commission d'enquête au mois de juin. J'imagine que l'Assemblée nationale fera de même. Donc ce sont d'abord devant les représentants de la nation que les gouvernants devront s'expliquer.
Vous n'êtes donc pas d'accord avec
leurs actes.
Vous n'êtes pas d'accord avec Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro de ce matin qui dit que la responsabilité est d'abord politique, mais c'est la Constitution qui a prévu dans certains cas un recours judiciaire avec un privilège de juridiction pour les hommes politiques et que on ne peut à la fois défendre l'état de droit et refuser que les Français en utilisent les ressources. C'est ce qu'il dit dans l'éditorial du Figaro aujourd'hui, Vincent Trémollet de Villers.
Je ne peux pas dire que je sois en désaccord. Ce qu'il dit est juste, puisqu'il y a un article 68-1 de la Constitution qui prévoit la responsabilité pénale des ministres devant la Cour de justice de la République. Ce que je dis, c'est que cette procédure, de façon un peu, disons, radicale, je dis, elles ne servent à rien, parce que dans l'affaire du sang contaminé, on a bien vu que, en fait, ce qu'avaient découvert les juges, eh bien, les hommes politiques, les commissions d'enquête, les articles, les livres, l'avaient déjà expliqué, très bien. Et donc, on a passé un temps fou et donc, on a aussi pris du temps et, donc, en quelque sorte, voulu, rendre responsables les ministres avant même de leur juger, alors même qu'on avait déjà des faits très établis. Je suis d'accord entièrement avec ce qu'a dit Philippe Sand. Le point d'abord, aujourd'hui, avant de chercher des responsables, faudrait établir les faits. Oui. Donc la première chose qu'on doit faire, parce que l'affaire n'est pas finie, l'épidémie n'est pas finie, donc on est dans un cas très différent du sang contaminé, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'établir les faits, ce qui s'est passé vraiment, et on va voir évidemment que tout ça est extrêmement compliqué. Les gouvernants vont devoir s'expliquer sur les décisions qu'ils ont prises, et aussi ce qu'ils ont fait. On leur reproche leur inaction, mais il faudrait quand même être équanime. On peut aussi voir ce qu'ils ont fait. Ouais. Il faut arrêter. Ce qui me surprend, c'est la manière dont on envisage le problème. Vous avez commencé votre émission en disant le responsable de la pandémie. Je vais dire une banalité, mais le responsable de la pandémie, d'abord, c'est le virus.
Oui.
Donc on est devant une affaire extraordinaire, tout à fait inédite, qui est un virus qui provoque une pandémie en Europe. Il y avait eu des épidémies en Asie, mais pour une fois, elle arrive en Europe et on n'est pas prêt. Donc voilà, voilà le point essentiel. Après, les gouvernants, ils se débrouillent. Voilà. Ouais. Ils se débrouillent plus ou moins bien et on verra effectivement s'ils sont bien ou mal débrouillés, si je peux m'exprimer.
Vous qui êtes spécialiste du droit, vous savez sûrement qu'à d'autres périodes de l'histoire, on a fait des procès d'animaux, donc on pourrait faire peut-être soit le procès du virus, soit le procès du pangolin, ça serait une autre histoire. Avishag Zafrani, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de Hans Jonas et donc du principe responsabilité, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, en particulier dans un livre qui s'appelle Ernst Bloch et Hans Jonas, le défi du nihilisme en 2014. Vous avez publié une tribune dans Le Monde, le 5 avril, sur ces questions justement de responsabilité. Pourquoi a-t-on besoin, de, justement, comme vient de le dire à l'instant même Olivier Beau, de trouver des responsables à une crise qui, a priori, est en dehors de notre pouvoir même, d'une certaine façon?
Alors, merci beaucoup pour votre question. Oui, vous faites bien de réorienter parce qu'effectivement, du point de vue juridique, je serais bien incapable de montrer comment doit se développer une enquête sur les responsabilités politiques et autres. Mais en fait, ce que j'avais essayé de montrer dans mon article du Monde, c'était ce que l'aperçu que donnait notre situation en temps de confinement et en temps de pandémie. Et cet aperçu est très important dans une perspective jonassienne, puisqu'il nous permet d'une certaine manière de prendre conscience d'une responsabilité qui était peut-être jusque-là d'une certaine manière abstraite, qui est cette responsabilité écologique dont on parle beaucoup évidemment en ce moment, et qui pâtit d'une forme d'abstraction parce que c'est toujours quelque chose d'éloigné, alors soit dans l'espace, soit dans le temps. Et il m'a semblé que dans cette situation pandémique mondialisée, il y avait quelque chose qui se rapprochait et que nous avions un aperçu de la responsabilité qui nous attendait vis-à-vis de la nature. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, justement, vous avez raison. Alors, je réponds rapidement à votre question, parce que votre question, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'attribuer des responsabilités. Oui, c'est parce que effectivement, il y a une forme d'impuissance dans l'idée que le responsable premier, ce serait un virus. Effectivement, c'est quelque chose qui est lié soit à l'aléatoire de la réalité, c'est une forme absolument contingente qui ne serait pas prévisible. Alors ça, c'est un cheminement de pensée. Mais devant ce cheminement de pensée, devant l'aléatoire, il y a une impuissance de l'homme qui, effectivement, pour se réattribuer un pouvoir sur la réalité, a une nécessité, se sent une nécessité de trouver des responsabilités. Mais, en fait, il y a un deuxième cheminement qui s'est quand même concrétisé là, ces dernières semaines, il me semble. C'est que c'était peut-être pas complètement imprévisible, en fait. C'est peut-être pas complètement lié à l'aléatoire et à la contingence, l'émergence de ce virus, puisque ça fait partie des maladies infectieuses émergentes, mmh. et que ces maladies infectieuses émergentes sont liées à une rupture dans la dynamique du vivant, et cette rupture qui serait attribuable à l'homme en général. Donc il n'y a pas une responsabilité individuelle, là, mais c'est une responsabilité collective de l'humanité, mais que l'on peut préciser, parce que ça reste quand même abstrait, mais c'est pas n'importe quelle humanité, c'est une humanité qui est, soumise ou qui est guidée par un type de productivité, mmh. un type d'activité technologique qui rompt cette dynamique du vivant. Donc il y a une responsabilité, mais qui est effectivement lointaine. Simplement, on pouvait la ressentir concrètement, même charnellement, disons, pendant ce confinement, avec les restrictions notamment de liberté.
De circulation et de liberté. On y reviendra dans un instant avec vous. Philippe Sands, justement, cette responsabilité collective difficile à définir, c'est quelque chose que le droit international, que vous connaissez très bien pour avoir travaillé à la fois donc en tant qu'avocat sur la question des droits de l'homme, mais également dans votre livre Retour à Lemberg sur l'invention du terme de génocide et de la notion de crime contre l'humanité. Tout cela, ça n'est pas pratique parce que, évidemment, un virus, un pangolin ou autre animal de ce type, on ne peut pas ni l'emmener devant la CPI, la Cour pénale internationale, ni devant la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que l'on a comme outil, justement, si un jour il y avait la possibilité de traduire, je ne sais pas, un État comme la Chine devant ses cours? C'est difficile, ça n'existe pas dans le droit pour l'instant.
Ça pourrait exister. Je reviens à ce que j'ai dit sur la question des faits, mais je suis fasciné par cette idée d'une responsabilité collective. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on sait, c'est que quelque chose s'est passé apparemment en Chine entre le fin octobre et le début décembre. Oui. Et les faits ont commencé à émerger. Certains pays, le Taïwan, la Corée du Sud, mmh. Singapour, ont pris des décisions assez vite. Mais début janvier, l'affaire a été internationalisée dans une comité où la question de la collectivité, la responsabilité collective est vraiment identifiée. Mm-hmm. Et le 22 janvier, le système international qui a été créé, en fait, qui a ses liens avec le moment en 45, dans le moment de l'après-guerre, de créer une sorte de système international pour maîtriser, pas cette histoire immédiatement, mais ce genre de truc, mmh. ils ont créé un OMS, Organisation Mondiale de Santé.
Et il y a un règlement sanitaire international, c'est ça qui va avec cet OMS.
Voilà, de 2005, qui dit clairement que le moment où il y a quelque chose qui se passe dans un État, l'État a une obligation de notifier l'instance internationale, l'OMS, et l'OMS a établi un comité d'urgence où une groupe de scientifiques indépendants vont se jeter sur cette histoire. Alors, ce qui s'est passé, la première réunion a eu lieu le 22 janvier. Et qu'est-ce qui se passait? Ils étaient divisés en deux. Ils pouvaient pas s'accorder. Est-ce que c'était un état d'urgence ou non? Et la question pour eux était très précise. Est-ce qu'il y a une transmission entre êtres humains? Et ouais. Apparemment, les opinions étaient divisées à ce moment au niveau national et international. Mais une semaine plus tard, tout a changé et la comité a décidé, oui, état d'urgence. Mais dans cette semaine, il y a eu une perte de temps importante. Et là, la question se pose, est-ce que les instances internationales n'étaient pas au niveau de gérer l'affaire? Et là aussi, il y a une question aussi de responsabilité. Mmh.
Donc là, en particulier, au niveau de l'OMS, effectivement. Et cette indécision, Olivier Beau, pour le domaine français, effectivement, on l'a connue aussi parce qu'on ne savait pas quel était l'avenir, on ne savait pas quel était l'avenir de la transmission de ce virus. Et dans les premiers temps, il y a eu des hésitations. On a vu là récemment dans un article du Nouvel Observateur, je crois, que un bruit de couloir disait que la ministre de l'époque, Agnès Buzyn, avait gardé des documents au cas où il y aurait un procès pour montrer qu'elle avait bien averti les autres responsables du gouvernement de la possibilité de la propagation d'un virus. Donc cette possibilité plane toujours au-dessus de la tête des décideurs, mais néanmoins, ils ne savent pas quel va être le chemin qui va être parcouru par le virus, par exemple, Olivier Beau.
Oui, je pense que toute la difficulté dans une affaire de ce genre, c'est l'incertitude. C'était déjà le cas dans l'affaire du sang contaminé, l'incertitude scientifique, puisque même les savants, les docteurs, les médecins ne savent pas vraiment ce qu'il en est. Ils ont des avis contradictoires. Donc il y a déjà ce premier élément qui est très important, qui éclaire aussi, effectivement, les hésitations du pouvoir politique. Ce que je voulais quand même aussi dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'aurais dû le faire, c'est quand même qu'il y a une particularité française. Quand vous étudiez ce qui se passe à l'étranger, eh bien, il n'y a aucune plainte pénale actuellement à l'étranger. En Angleterre, il n'y a pas de plainte pénale, j'ai vérifié, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y en a en Italie, mais il y a en Italie et en Espagne une procédure qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui en France, qui est l'immunité parlementaire. Les ministres sont des parlementaires et donc sont protégés par leur immunité. Donc on a une particularité française qui, pour moi, est regrettable, c'est-à-dire cette idée de vouloir poursuivre au pénal. Et on a cette particularité parce qu'effectivement, on a une difficulté en France ou à cinquième, c'est qu'on a une responsabilité politique qui fonctionne mal. Elle fonctionne mal et elle donc conduit les gens à se rabattre vers le plan pénal.
Ce que vous appelez la responsabilité politique, Olivier Beau, pour être précis, ce que vous appelez la responsabilité politique, c'est la responsabilité politique des gouvernants devant le Parlement en particulier.
Exactement. La France, la cinquième, contrairement à ce qu'on croit, est un régime parlementaire. Donc on a une responsabilité des gouvernants, des ministres, pas du président, des ministres devant l'Assemblée. Eh bien, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une commission d'enquête qui allait être créée au Sénat. Et vous voyez, cette nouvelle n'a fait l'objet d'aucun commentaire dans la presse. Je l'ai trouvé sur Internet, mais on voit bien, la presse, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est un peu fait divers. Donc, les plaintes, ça fait un côté, si vous voulez, spectaculaire, ça intéresse tout le monde. Par contre, le vrai travail, qui devrait être le travail politique de responsabilité devant le Parlement, ça n'intéresse plus personne. Et là, je pense, c'est très maladroit de dire ça devant un journaliste, mais je le dis quand même, il y a une responsabilité des médias qui sont focalisés par le spectacle.
Vous savez, on a l'habitude de prendre beaucoup.
Et qui oublient tout simplement comment fonctionne une démocratie.
On est souvent responsables de beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas.
Je parle en général, évidemment. Je parle en général, mais je vous dis, c'est quand même très significatif de la façon dont en France la démocratie dysfonctionne, parce que les auditeurs et même l'opinion publique ne sait même plus, ne connaît même plus. Quand je parle de responsabilité politique, tout le monde me dit, mais elle n'existe pas, elle est ineffective. perspective, si elle existe, et en l'occurrence, j'espère qu'elle va fonctionner, j'espère qu'on saura beaucoup de choses grâce au travail des parlementaires, à qui on doit faire confiance, et on peut espérer, moi en tout cas, je suis certain qu'on va apprendre beaucoup de choses en écoutant ces auditions devant les commissions d'enquête parlementaire. Et ça sera bien plus utile que les plaintes pénales.
Les auditions, bien sûr, mais effectivement, souvent, ces commissions parlementaires, enfin, bon, faut pas généraliser, mais quelquefois, disons, ne vont pas jusqu'au bout de ce que l'on pourrait espérer, justement, dans ce domaine de la responsabilité politique. Avishag Zafrani, tout de même, cette question d'indécision qui est au cœur de ce que disaient à la fois Philippe Sand et Olivier Beau, c'est aussi pour cela qu'on est dans cette espèce de flou dans lequel on se trouve aujourd'hui en matière de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire de juger une responsabilité pour l'avenir, puisque d'une certaine façon, certes, le coronavirus est là, certes, l'épidémie est là, mais en même temps, il va falloir réfléchir à la façon dont peut-être d'autres virus vont pouvoir se déclencher sur le même modèle et donc créer de nouvelles catastrophes.
Oui, alors, c'est la différence que Antionas fait entre la responsabilité juridique et la responsabilité éthique qu'il essaye de construire dans sa philosophie, dans son système, et qu'il appelle une responsabilité objective. Donc il n'y a pas une responsabilité subjective à qui on impute des choses et puis enfin qui a des obligations vis-à-vis de la loi, mais il essaye de penser une responsabilité objective du point de vue de la condition humaine, de la situation de l'homme dans la nature et du point de vue de l'agir humain sur la nature. C'est une responsabilité qui ne vient pas d'une certaine manière de lui, mais qui lui incombe, qui vient de l'objet nature ou de l'objet monde dans lequel il est et dont il détruit éventuellement ses conditions d'existence pour l'avenir. Et donc c'est extrêmement important parce que, en fait, en détruisant les conditions d'existence, il détruit la possibilité pour l'homme d'être libre. Et en fait, ce qu'il craint, c'est que nous arrivons à un moment de catastrophe écologique où les gouvernements seront tout à fait légitimes à prendre des restrictions de liberté beaucoup plus grandes, si vous voulez. Donc ce serait d'être dans des situations beaucoup plus intense de ce point de vue-là. Donc il essaye de dire que au nom de la liberté, au nom des conditions d'existence qui permettent la liberté de l'homme, la liberté de choix, c'est-à-dire en tant qu'il est un être moral, qu'il a la possibilité de choisir, au nom de cette possibilité du choix, il faut donc avoir la possibilité de renoncer à certaines choses aujourd'hui.
Tout de suite, pour justement prévoir un futur qui soit plus éthique en particulier.
Oui, mais alors la difficulté, si vous voulez, c'est que rationnellement, on est tous d'accord là-dessus, c'est-à-dire c'est
oui, dans la pratique, ça n'est pas le cas.
Voilà, c'est-à-dire on a un ensemble de savoirs qui nous permettent de dire que oui, effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, au niveau de la raison, au niveau du savoir, nous avons au niveau de l'information, nous avons toutes les données. Et Antionas était tout à fait conscient de ça. Et donc c'est pour ça aussi qu'il rompt avec une tradition philosophique qui fonde la morale simplement en raison, dans la raison qui serait le fruit d'une réflexion seulement, mais qu'il cherche un levier affectif à cette éthique du futur. Et ce levier affectif, pour lui, c'est la peur ou la crainte d'abandonner ou de perdre des conditions d'existence viables dans lesquelles la liberté de choix est possible, si vous voulez. Et donc, cette crainte ou cette peur, il me semble que nous l'avons ressentie.
À ce moment-là, effectivement, et qu'on pourrait s'appuyer sur elle d'une certaine façon, elle pourrait être positive et elle nous permettrait effectivement de mieux envisager cet avenir qui peut être terrible devant nous. Vous écoutez le temps du débat consacré à la question des responsabilités dans cette crise du coronavirus avec Avishag Zafrani, que vous venez d'entendre, elle est philosophe, Olivier Beau, qui est professeur de droit public, et Philippe Sands, qui est avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme et également écrivain, auteur de « Retour à Lemberg ».
Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Say I had a mother who could pray.
woman, yeah. Alright, alright.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat qui se pose la question, peut-on trouver des responsables à la crise, avec Avisak Chafrani, avec Olivier Beau et avec Philippe Sands. Vous venez d'entendre un extrait de Nina Simone, Nobody Fault But Mine. Évidemment, c'est un titre magnifique pour la question de la responsabilité. Philippe Sands, on a discuté avec vous depuis le début de cette émission, Philippe Sands, sur les objets, les lieux où on pourrait justement trouver des responsabilités une fois qu'une enquête aura été menée sur ce qui s'est passé exactement au tout début de cette crise, en particulier peut-être du côté de la Chine. Il y a d'autres sanctions que les sanctions pénales au niveau international. Il pourrait y avoir des sanctions économiques, des sanctions douanières, la pression morale, etc. Bon, on sait que ça ne fonctionne pas toujours vis-à-vis des États-Unis, de la Chine ou même parfois de l'Europe, mais il n'y a pas que la loi, que le tribunal qui puisse mettre en place justement une façon de dire qui est responsable et pourquoi il faudrait qu'il paye, comme voudrait le faire en particulier Donald Trump auprès de la Chine.
Tout à fait. En droit international, au niveau international, il y a plein de systèmes différents qui opèrent dans ces domaines. J'ai bien aimé la chanson là, de Nina Simone, Nobody's fault but mine, no, faute de personne sauf moi. C'est pas en général nos hommes et femmes politiques qui prend ce parole, ni au niveau international. Alors, imaginons donc un scénario, soyons pratiques, qu'on découvre que début décembre, certains responsables d'un certain pays avaient des éléments de fait et ils ont décidé de ne les pas partager. Ils ont décidé de silencier, par exemple, ce médecin chinois qui avait commencé à écrire.
De l'empêcher de parler.
Voilà, des choses qui se passaient. Là, je pense qu'on peut imaginer dans ce contexte, un système de droit qui dirait oui, si c'est un responsable d'un État, on peut attribuer la responsabilité de cet homme ou de cette femme à l'État. Il y aurait même la possibilité d'avoir une responsabilité individuelle criminelle en certains cas. On peut pas exclure complètement l'hypothèse qu'au niveau du droit international, les crimes internationaux s'appliquent aux faits. Mais ça revient toujours au fait. Et pour moi, ça pose plutôt la plus grande question de quel est le rôle du système de droit, quel est le rôle du système pénal, du système de droit criminel. Et une partie, c'est pas une question simple, il y a plein d'objectifs qu'a le droit. Un objectif qu'a le droit, c'est d'établir les faits. Parce que pour moi, la question la plus importante, c'est pas seulement qu'est-ce qui s'est passé, mais comment est-ce qu'on évite que ça se passe encore une fois, comme mon collègue l'ont déjà évoqué. Et pour ça, je pense, le rôle de responsabilité joue un certain rôle. Si on évoque la responsabilité, c'est aussi un peu parce que on veut faire très attention que l'avenir, l'histoire ne se répète pas. Mais c'est pas le droit formel seulement qui peut s'appliquer dans ce contexte. Alors nous avons dans d'autres contextes du droit criminel une sorte de système de truth and reconciliation, de vérité, pour établir encore exactement ce qui s'est passé. Mais pour avoir pour aller en dehors du droit formel, du droit pénal formel, ou même du droit civil formel, il faut avoir une confiance dans le système. Oui. Il faut que les États, que les gérants soient un peu d'accord pour la direction à prendre. Et là, en fait, ce qui s'est passé cette semaine à l'OMS, c'est intéressant. C'était à l'unanimité, c'était une décision en consensus d'établir une investigation indépendante. Là, c'est très important qui va participer dans cette investigation. Ça, on le sait pas encore. Mais on peut imaginer là un moyen pour se jeter dans les faits, pour ouvrir les portes qui s'ouvriront partout en Europe, partout dans le monde, en France, en Angleterre aussi, on a les mêmes questions. Qui est responsable, par exemple, pour les EHPAD? Les Anglais ont mis l'accent sur les hôpitaux, mais pendant 6 semaines, ils n'ont rien fait pour les EHPAD. Et là, c'est catastrophique. Il y a une grande question maintenant.
Et c'est catastrophique
ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est catastrophique.
Et ce que disait à l'instant même Olivier Beau, c'est qu'il n'y avait pas de criminalisation, enfin d'imputation aux responsables politiques pour l'instant devant la justice. Ça pourrait venir, selon vous, en Angleterre, ou ça n'est pas le cas, a priori?
En Angleterre, au Royaume-Uni, on a un système un peu différent. On a une situation un peu différente parce que, comme vous le savez tous très bien, le Premier ministre britannique a failli s'éteindre dans cette question. C'était, de ce que je connais, très très près l'idée du disparition du Premier ministre. Alors là, je pense que ça a eu un certain effet au niveau politique, c'est-à-dire oui, on sait qu'on a tous ces problèmes, on sait que c'est très mal géré, mais on doit laisser un peu l'espace à ces gens et surtout le Premier ministre de s'en sortir. Mais là, encore plus important de ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que le Royaume-Uni est en train d'imploder parce que là, Boris Johnson, il est Premier ministre de l'Angleterre, mais il est plus Premier ministre de l'Écosse, de Pays de Galles et de l'Irlande du Nord.
Ah, tout de même, il est encore en titre, théoriquement en titre. Mais effectivement, il y a
la réalité de la chose est complètement différente.
Bien sûr. Olivier Beau, justement, sur ces alternatives possibles à ces procès pénaux, puisque vous appelez justement à ce qu'il y ait des alternatives. Il y a le civil, mais on voit par exemple deux anciens ministres qui ne sont pas d'accord. D'un côté, il y a Corinne Lepage qui dit il y a que le pénal qui fasse bouger les gens et qui les incite à être vertueux. Et d'un autre ministre de la Santé, en l'occurrence, Claude Évin, dans Libération aujourd'hui, qui dit il faut privilégier la médiation à la plainte pénale et il faut trouver des alternatives aux poursuites puisque ça c'est recherché comme cela par la médiation l'apaisement collectif. J'imagine que vous êtes plus d'accord avec Claude Évin qu'avec Corinne Lepage. Qu'est-ce qu'il y a comme autre alternative, comme des alternatives à cette question pénale?
Il y en a une qui on n'a pas encore évoquée mais qui en France est très importante, c'est la responsabilité administrative, qui renvoie à une idée qui a été évoquée tout à l'heure de la responsabilité collective. En France, ça a eu lieu dans la fin de ce contaminé, ça pourrait à nouveau avoir lieu ici, c'est que lorsque l'État est responsable de ce qu'on appelle une carence fautive, à ce moment-là se met en marche un processus qui est la responsabilité administrative, où les victimes ont le droit de réclamer une indemnisation financière pour les dommages commis par l'État ou d'ailleurs par d'autres personnes publiques, parce qu'il y a évidemment les hôpitaux, il y a des établissements publics aussi, je pense pour les maisons de retraite, souvent c'est privé, mais en tout cas tout ce qui concerne le droit public peut justement être passible de cette responsabilité administrative, qui est une responsabilité très efficace à mon avis et qui est une solution alternative à la responsabilité pénale. C'est pour ça que je suis très choqué, là, j'ai été très choqué dans l'affaire de ce contaminé, c'est qu'on a l'impression que ça ne suffisait jamais aux victimes et aux avocats qui en voulaient davantage. Il y avait eu de la responsabilité administrative et il y avait eu les responsables des centres de transfusion sanguine qui avaient été sanctionnés et il a fallu remonter jusqu'au ministre cette responsabilité pénale. Et ça me paraissait vraiment excessif parce que on avait déjà des moyens de droit pour en quelque sorte indemniser les victimes. J'ajoute un point très important. Pourquoi je suis hostile, moi, à cette criminalisation de la responsabilité? Parce que pour moi, c'est une régression très profonde. Le droit pour objectif principal, la civilisation, des mœurs et des rapports sociaux. Quand on fait une action pénale, c'est pas du tout négligeable. C'est-à-dire qu'il y a une idée quand même que la société va vous juger responsable. Il y a une sorte d'infamie qui est marquée. Même si vous n'êtes pas condamné, que vous êtes poursuivi, vous traînez cette infamie pendant très longtemps. Il suffit de rappeler le cas de Laurent Fabius, qui n'a pas pu se présenter à la présidence de la République parce qu'il a été poursuivi dans l'affaire de son contaminé. Donc il y a un aspect très important, à mon avis, de régression. Et j'ajoute un point aussi important, c'est qu'en France, et je ne suis pas le seul à le dire, j'ai lu quand j'étais plus jeune les écrits de Daniel Soulez-Larivière, le grand avocat, qui a toujours critiquer cette tendance à vouloir tout pénaliser en France. Or, si vous lisez le code pénal, maintenant, n'importe quel fait peut maintenant être passible d'un délit pénal. Maintenant, vous avez la mise en danger d'autrui. Le fait d'habiter une capitale polluée, c'est évidemment, on est déjà en danger. Alors, on va trouver quelqu'un, on va faire un procès pénal, qui sera le responsable du fait que nos vies sont en danger parce qu'on habite Paris. Donc, on a, à mon avis, un état du droit français déplorable en matière de droit pénal. Il y avait le professeur André Demichel qui avait parlé du droit pénal en arrière. Ça n'intéresse personne. Alors pour moi, c'est la principale cause de ces dérives pénalistes, c'est qu'on a un code pénal qui est devenu complètement fou et qui est liberticide parce que n'importe quel fait peut maintenant faire l'objet d'un délit pénal.
Mais on peut très bien entendre effectivement ce que vous dites, Olivier Beau, mais pour cela, il faut pouvoir mener les enquêtes jusqu'au bout. Et vous connaissez évidemment, pour avoir travaillé sur cette question du sang contaminé, la juge Berthela Geoffroy, qui disait, mais écoutez, c'est bien, mais quand on mène des enquêtes comme sur l'amiante ou comme sur le sang contaminé, on n'a jamais les moyens nécessaires pour pouvoir aboutir à des enquêtes. On n'a pas les moyens de police judiciaire, disait-elle, les officiers de police judiciaire, qui auraient permis à ces enquêtes d'avancer plus vite et de faire en sorte qu'elle soit mieux menée. Est-ce que ça n'est pas aussi la question que vous posez depuis le début avec Philippe Sands, qui est, il faut faire des enquêtes, il faut savoir quels sont les faits et comment on les établit.
Dans l'affaire de sang contaminé, Mme Berthela Geoffroy, à mon avis, je préfère pas en parler parce que je vais dire des choses désagréables, donc je vais rester objectif. Ce qui est objectif, c'est que les faits ont été établis par un rapport de l'IGAS, le rapport Lucas, ont été établis par les deux commissions d'enquête qui ont fait deux volumes de plus de 500 pages. Les gens qui ont lu, pratiquement personne n'a lu ça, mais les gens qui ont lu ça comme moi, savent qu'ils n'en ont pas plus appris dans les faits en lisant les enquêtes pénales. Donc on avait suffisamment de faits pour savoir de quoi ils ressortissaient, on n'avait pas besoin d'une enquête pénale. Donc moi ce que j'espère dans cette affaire qui est aujourd'hui l'épidémie de la Covid, que les rapports des commissions d'enquête parlementaires donneront des éléments suffisants à l'opinion publique, aux gens, aux députés, aux sénateurs et donc aux citoyens pour savoir si et dans quelle mesure l'État, les gouvernants ont erré, ont fait des erreurs ou n'ont pas fait d'erreurs. Et en effet, ça suffira. Tout ce qui est du pénal est, à mon avis, superflu.
Avishak Zafrani, vous qui êtes philosophe, vous entendez des arguments de droit, bien entendu, mais ce qui est extrêmement intéressant à la lecture des œuvres de Hans Jonas, c'est d'essayer de comprendre comment cette vision philosophique qu'il a développée, et qui d'ailleurs a souvent été mal comprise, puisqu'on a vu en lui essentiellement le père de la notion de principe de précaution, et donc de quelqu'un qui aurait d'une certaine façon bloqué la société. En quoi peut-il nous aider, Hans Jonas, à comprendre justement comment s'enchevêtrent ces questions de responsabilité collective, par exemple, de responsabilité juridique, et comment on peut tirer les fils pour pouvoir essayer d'avancer plus vite?
Alors, donc, c'est une question assez complexe, en fait, les liens entre le juridique et le philosophique. En fait, bon, Hans Jonas, en tant que philosophe, essaye de formuler des prérogatives et de donner une légitimité à cette crainte pour une éthique du futur. Et voilà, donc lui, il donne un ensemble d'arguments philosophiques.
Dans votre article du Monde, vous disiez en fait la responsabilité pour des temps indistincts. Et tout compte fait, je trouvais en vous lisant à ce moment-là, c'était donc je crois le 5 avril, qu'il y avait effectivement quelque chose qui résonnait avec ce que nous ressentions à ce moment-là et que nous ressentons encore, c'est-à-dire les temps indistincts. On ne sait pas vers où on va.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire... Je me suis intéressée dans le livre que vous avez cité à deux auteurs, un qui écrivait le principe espérance et l'autre le principe responsabilité, donc Hans Jonas dont on parle, et donc les deux s'intéressaient à la catégorie de l'avenir, et la catégorie de l'avenir, la difficulté c'est de lui donner effectivement un contenu. Et donc, on peut choisir effectivement de lui donner ce contenu optimiste et de l'espérance. Et dans le contexte actuel, Jonas préférait de lui donner ce contenu de la peur, tout en ayant quand même une image optimiste de l'homme finalement, puisqu'il s'agit quand même de préserver un homme libre comme dernière image. Mais ce qui est d'intéressant, en fait, pourquoi est-ce que c'est indistinct? Pourquoi il y a cette incertitude? C'est parce que selon Hans Jonas, notre activité de production économique et technologique, elle est autocumulative. Et donc, elle nous empêche de voir les conséquences de nos actions. Et donc, l'incertitude, elle naît de cet aveuglement, en fait, c'est une activité dans laquelle on est soumis à une dynamique que nous ne maîtrisons plus. Et donc, il s'agit effectivement de récupérer une forme de certitude. Et donc,
de plus en plus, on sait les conséquences de nos actes, puisque tous les travaux du GIEC ou d'autres organismes internationaux scientifiques nous disent tout compte fait que l'on connaît les conséquences. Enfin, on les imagine en tous les cas, les conséquences sur le réchauffement climatique, l'extinction des espèces, etc., etc. Donc on est de plus en plus au courant de ce qu'on pourrait faire. Ça n'est pas pour autant que notre responsabilité va jusqu'à changer nos attitudes.
Non, voilà, c'est exactement le problème que je soulevais tout à l'heure lors de votre deuxième question. On sait et on ne fait pas. Donc, il faut trouver un levier pour Jonas. Il faut trouver un levier affectif. Mmh. Et donc, la crainte est importante. Je vais essayer d'aboutir cette réflexion. Dans nos sociétés, nous dit Jonas, dans nos sociétés un peu privilégiées, qui ont l'habitude de grandes libertés, de libertés même peut-être d'une certaine manière excessive, on va peut-être être soumis à une dynamique inverse. Même Platon disait ça déjà dans la République, une liberté excessive va se transformer certainement en une forme de tyrannie, enfin une absence de liberté. C'est la mécanique du pouvoir.
Je vais donner la parole à Philippe Sands parce que nous arrivons. Allez-y, terminez. Très brièvement.
Ce qu'il veut, c'est que dans nos sociétés privilégiées où nous avons l'habitude de nos libertés, cette éthique du futur doit faire en sorte que ce que nous appréhendons comme des renoncements ou des sacrifices, dans la situation que nous avons connue, que ces renoncements ne soient plus vus comme des renoncements, mais au contraire comme une émancipation d'un certain rythme qui était une forme de servitude et qui a amené cette destruction environnementale. Mmh. Donc le levier affectif est extrêmement important justement pour animer ce savoir.
Merci beaucoup à Ishaq Zafrani. Philippe Sands, pour conclure, dans quelques jours, c'est à la fin juin, on célébrera le 75e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies. Ça a été un moment très important de coopération internationale. C'est très loin derrière nous. Et ceux qui l'ont signé, ceux et celles qui l'ont signé, cette charte des Nations Unies, avaient une vision de l'avenir très ouverte, justement, puisqu'on parle d'avenir avec Avishak Zafrani. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Est-ce que vous pensez que cet espoir peut renaître à l'issue d'une crise comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas simplement de l'imputation, qu'il n'y ait pas simplement de la recherche de responsabilité, mais aussi peut-être des changements d'attitude et la création peut-être de nouvelles normes juridiques pour pouvoir nous aider à mieux appréhender ce qui nous arrive?
C'est intéressant comme question, parce qu'il y a 75 ans, ils ont saisi le moment pour faire un moment de création, l'idée de multilatéralisme, coopération, règles de droit, etc., etc. Là, on se pose la question, est-ce que c'est plutôt un moment de destruction? On regarde avec horreur l'attaque par le président Trump du système de l'OMS. Et on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé en 75 ans, que l'État qui a fait le plus pour créer ce système est maintenant le premier à l'attaquer. Mm-hmm. Et là, je pense qu'on voit un peu les questions pour l'avenir.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Avishak Zafrani. Merci à vous, Olivier Beau, ainsi qu'à vous, Philippe Sands, d'avoir participé à cette discussion donc autour de la question de la recherche de responsabilité dans la crise du coronavirus. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Manon Prissé, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier à la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric, c'est à la réalisation Perret Legras. Vous pouvez lire sur le site de France Culture l'ensemble des conversations mondiales. Vous savez, ces textes que nous avons commandés aux unes et aux autres, des intellectuels, des écrivains, des artistes du monde entier, pour réfléchir justement à la question posée par le coronavirus. Le dernier texte est en écho avec ce qu'on vient de dire. C'est un texte de l'écologue équatorien Rafael Cardenas. Il parle de l'Équateur, de son pays, mais aussi évidemment des liens qu'il peut y avoir entre l'écologie et la question du coronavirus. C'est sur le site de France Culture à la page Une conversation mondiale. La semaine prochaine, lundi, nous commencerons par évoquer le prix de la santé à propos du Ségur de la santé.